Les archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Dès qu'une race est responsable d'une civilisation, même si elle est noire de la tête aux pieds, même si elle est lipue, même si elle est prognate, elle ne peut plus être perçue, occidentalement parlant, comme étant nègre. Le nègre, c'est un être, blanc ou noir, qui n'a pas créé de civilisation.
Et c'est pour corriger, pour apporter une réponse à cette condescendance véhiculée par les scientifiques des siècles précédents, c'est pour mettre fin à cette supercherie, à cette falsification de l'histoire perpétrée par des éminents chercheurs au fil des siècles, qu'il s'est lancé dans les recherches sur le peuplement de l'humanité. Des travaux à la fois scientifiques, linguistiques, sociologiques et anthropologiques qui l'ont amené à démontrer, malgré l'opposition de ses pairs occidentaux, que l'Égypte ancienne, celle des architectes et bâtisseurs des pyramides, celle où la Grèce hellénique se rendait pour s'imprégner du savoir, des sciences et de la technologie, était nègre. Une audace, une théorie qui a fait de lui une véritable légende en Afrique et dans la communauté noire des États-Unis d'Amérique. Le docteur Cheikh Kanta Diop, à qui nous consacrons à partir de ce week-end une série d'archives d'Afrique.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
L'égyptologie a fourni en même temps qu'elle naquit un effort de négation pour gommer en quelque sorte effacer l'origine négroïde. Et je n'en veux pour preuve que le témoignage du frère de Champollion le Jeune. Champollion le Jeune était un savant de bonne foi. Mais Champollion fils Jacques fait partie de ces savants qui ont falsifié sciemment l'histoire et qui ont écrit des choses qu'un vrai savant n'écrit pas. Champollion fils Jacques, voici sa déposition. Il dit, c'est très long, la peau noire et les cheveux crépus, ces deux qualités physiques ne suffisent pas pour caractériser la race nègre et la conclusion de Volney relative à l'origine nègre de l'ancienne population égyptienne est évidemment forcée et inadmissible. La science devient normative. Qu'est-ce qui est inadmissible en science? En science, tout ce qui est prouvable est acceptable et admissible. Donc, il fallait, c'est comme si on avait honte de cette origine nègre en pleine période impérialiste, il fallait la gommer. Et tous les égyptologues sur l'origine des Égyptiens n'ont jamais donné des choses à partir de ce moment-là satisfaisantes. Je pense à Maspero, je pense à Brested, je pense à toute l'égyptologie actuelle qui élude complètement le problème.
Nous sommes le 2 février 1974 au Caire en Égypte. Cheikh Kanta Diop parle enfin devant d'éminents égyptologues venus des quatre coins du monde à la demande de l'UNESCO. Cheikh Kanta Diop.
Lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, j'ai dit que je ne pouvais pas, sous prétexte qu'on écrit un ouvrage de portée mondiale, n'est-ce pas, m'exprimer par des euphémismes. Donc, il faut que toute la communauté scientifique se réunisse au Caire, qu'on débatte de cette question brûlante de l'origine africaine de l'Égypte et de l'origine nègre de l'Égypte, et que tous les savants et spécialistes qui ne sont pas d'accord viennent. Et qu'on les avertisse 2 ans à l'avance, au moins, et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Je garantis la sérénité des débats, je garantis la courtoisie des débats, et du côté africain, je ne serai qu'avec 2 collaborateurs, 2 qui, comme moi, pouvaient lire les hiéroglyphes, les autres, je n'en avais pas besoin parce qu'ils ne pouvaient rien apporter. Et même, nous n'étions que 2 finalement, le 3e même a eu un empêchement, et cela permettait d'élargir la délégation occidentale et de faire venir tous ceux qui le voulaient. L'Amérique était représentée par son département même d'égyptologie à Luxor, l'Égypte était représentée par la cohorte de ses savants sur place, la France était représentée par ses meilleurs égyptologues, le professeur Vercouter, le clan, qui sont tous académiciens maintenant, et Sonoron, qui était un des meilleurs pour la langue égyptienne, de Bonum. La Scandinavie était représentée par l'académicien C.O. Soderberg, ainsi de suite.
C'est devant un tel parterre de scientifiques, d'autant d'horizons qu'ils n'étaient pas parvenus jusque-là à réunir, que Cheikh Kanta Diop, accompagné de son disciple, le Congolais Théophile Obenga, va se livrer à sa démonstration sur l'origine de l'humanité. Il s'appuie dans un premier temps sur une étude réalisée sur la peau des momies, relevée dans les sarcophages, puis sur le groupe sanguin des Égyptiens, mais également sur divers témoignages pour étayer ce qu'il essayait de faire passer comme message depuis plusieurs décennies.
Et j'en arrive, à l'époque moderne, ce qui fait qu'en pleine époque d'esclavage, quand un savant français de bonne foi a visité l'Égypte, il n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri, il s'agit de Volney, qui a visité l'Égypte entre 1783 et 1785, et il décrit les Coptes. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsque, ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit, pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, etc. Parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Et Volney dit plus loin, quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et c'est là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole, etc.
Cheikh Anta Diop va étendre sa démonstration, sa théorie, jusqu'aux similitudes linguistiques, notamment avec sa langue nationale, le Wolof.
On a dit que l'Égyptien ne connaissait pas leurs origines, je ne suis pas d'accord. Et voici ma raison. Les Égyptiens connaissaient parfaitement leurs origines et ils l'ont exprimé dans leur langue d'une façon explicite. Alors, Kem, ça veut dire noir en égyptien ancien. Et la formation d'un collectif en égyptien ancien consiste à mettre un T au singulier, à l'adjectif ou bien au substantif. Et c'est de cette manière qu'on a formé Kemt, qui veut dire le pays noir. Et c'est là que vous faites la confusion. Hein? Parce que Kemt, ça veut dire la noire, étymologiquement. Ça veut dire la noire, absolument. Kem, ça veut dire noir, c'est l'adjectif. Et Kemt, c'est la noire. Mais les égyptologues avaient l'habitude de dire, puisque le déterminatif qui suit, c'est le déterminatif du pays, alors noir, la noire doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes. Mais ils ne discutaient pas pour savoir si Kemt étymologiquement signifie noir ou pas. Mais là, où la position des égyptologues n'est plus défendable, c'est quand le même Kemt maintenant est suivi d'un déterminatif composé de l'homme, de la femme et des trois traits du pluriel. Et à ce moment-là, si on est conséquent avec soi-même, on est obligé de dire que cette fois-ci, noir s'applique nécessairement aux hommes qui suivent au déterminatif. Parce que le déterminatif a changé. Si le déterminatif est le pays, je veux bien que noir s'applique au pays. Mais si le déterminatif, ce sont les hommes, c'est l'ensemble du peuple d'Égypte symbolisé par l'homme, la femme et les trois traits du pluriel. Alors, on raisonne selon les mêmes critères. Il faut avoir le courage intellectuel de dire que ce sont des nègres. Bon. Et cette racine a proliféré dans les langues africaines. Cette racine veut dire noir, nègre également. En Wolof, nous avons aujourd'hui khum, qui veut dire charbonné. Et nous avons khumit en Wolof, qui veut dire ce qui a charbonné. Par conséquent, et nous avons un peu kembu qui veut dire le charbon, un peu. Par conséquent, cette racine, khemit, a proliféré dans les langues africaines. C'est la fameuse racine kamitique, le mot kamit sur lequel nous allons longuement discuter. Voici son origine étymologique. C'est le terme par lequel l'Égyptien ancien se désignait et qui veut dire noir charbon.
Mais qui est ce personnage qui rame ainsi à contre-courant dans toutes les publications et recherches scientifiques diffusées à travers le monde ? Qui est cet intellectuel africain qui défie les chercheurs avec des théories aussi afrocentristes ? Qui est cet homme qui accepte d'être la cible de toute la communauté scientifique qui a surtout développé jusque-là la thèse polycentriste de l'origine humaine ?
C'est à partir de la région du Kenya, à partir de cette région de l'Afrique, que l'humanité entière va être peuplée. Par conséquent, toutes les théories antérieures qui peuplaient l'Afrique à partir de l'Asie mineure, à partir de l'Inde, à partir de la Palestine, toutes ces théories sont caduques. Les deux spécimens, les deux variétés d'hommes qui ont existé, sont partis d'ici pour aller peupler le reste de la Terre.
Cheikh Anta Diop voit le jour le 29 décembre 1923, dans la région de Dourbel, à Tchétou, c'est-à-dire à environ 150 km de Dakar. Il est le fils unique de Massamba Sassoum Diop, qui va décéder quelque temps seulement après sa naissance. C'est donc sa mère, Maguette Diop, qui doit s'occuper de son éducation. Docteur Yorossi, un de ses compagnons de lutte.
Cher descendant de la famille des Diop, et son grand-père maternel, Massamba Sassoum, c'est le dernier Bargeïtch, autrement dit, l'un des derniers qui aurait pu prétendre au titre de Mel, ou même de Barak Owalo. La petite sœur de sa maman avait épousé la sœur du grand marabout, Cheikh Bamba, Cheikh Mahmoud Bamba, le fondateur même.
Le fondateur du mouridisme.
Du mouridisme. Fatou, la petite sœur de sa mère, avait épousé la sœur de Serigne Bamba. Donc, il y avait de l'argent, et sa mère, très dynamique, Cheikh a commencé l'école coranique à Tchaïtou, il est allé à Koki, Il a fini à Kergoumak, à Djourbel, et sa maman l'a mis à, c'est sa maman qui l'a mis à l'école française.
Avant l'école française, donc, le jeune Cheikh Anta Diop est d'abord envoyé à l'école coranique à Koki, qui va, comme il l'écrira plus tard, entraîner l'esprit et le corps à l'endurance physique et morale. Il passe donc ses premières années dans un environnement mouride. C'est de là que sa mère l'envoie à l'école régionale de Djourbel, où il obtiendra son certificat d'études primaires en 1937. Son parchemin en poche, il rejoint sa mère à Dakar, dans le quartier de la Médina, et s'inscrit au lycée Van Vollenhoven. Mais dans cet établissement, il est confronté en classe de troisième à la xénophobie de son professeur de français, qui ne supporte pas son attitude peu révérentielle, comme l'illustre ce mot d'un des responsables administratifs du lycée Van Vollenhoven, adressé en août 1941 à l'inspecteur général de l'enseignement en Afrique occidentale française. Le jeune Cheikh Anta Diop risque, par la mauvaise disposition de son professeur, M. Boyau, de tripler sa troisième, ce qui motiverait sans aucun doute son renvoi du lycée. M. Boyau est un singulier professeur dont j'ai eu l'occasion, dès ses débuts au lycée, de signaler l'attitude hostile à notre race aux autorités. Ses théories sur la race, qui font de lui un disciple de Gobineau, sont des plus pernicieuses et font que le fossé se creuse chaque jour davantage entre le blanc et le noir. Fin de citation. Cheikh Anta Diop va finalement quitter cet établissement en raison d'une tension trop forte donc avec ce professeur de français pour rejoindre la capitale d'alors, Saint-Louis, où il obtiendra son baccalauréat première partie. Docteur Yorossi, un de ses compagnons et disciples.
Cheikh, tout jeune, est un esprit curieux, a toujours été un esprit curieux. Même quand nous étions au lycée, il a voulu inventer une écriture pour dire que ces blancs-là, ils nous compliquent les choses, ils disent qu'on n'a pas d'écriture. Moi, je suis sûr qu'on en a, parce que même moi, je vais essayer d'en créer. Bon, ça n'a pas abouti.
Cheikh Mbaké Diop, son fils aîné, auteur d'une remarquable biographie sur son père.
On voit qu'il y a une grande précocité dans la prise des consciences, dans la prise de conscience des problèmes culturels africains. Et très tôt, il s'intéresse à ces questions culturelles, et en particulier à l'aspect linguistique, et se pose la question de savoir comment sa langue maternelle qu'il connaît parfaitement, grâce au milieu dans lequel, justement, il a vécu, comment cette langue, il peut la transcrire autrement que par l'alphabet latin qu'il a appris un peu plus tard, donc à l'école française, parce que, justement, il trouvait que cet alphabet était trop pauvre pour représenter donc tous les sons de sa langue maternelle. Mais il ne s'est pas cantonné à sa propre langue. Et ce qui est justement remarquable, c'est que d'emblée, cette invention de transcription, il la conçoit pour l'ensemble des langues africaines. Donc c'est un système aussi qui a sa propre logique, hein, évolutif. Donc on voit déjà les dispositions d'esprit, à la fois de quelqu'un donc qui va s'intéresser à l'histoire, aux sciences humaines, telles qu'on les appelle aujourd'hui, mais aussi animé également d'une forte rationalité, d'une forte logique, puisqu'il concevait ce dispositif linguistique avec des règles qui lui permettait d'être généralisé aux autres langues africaines sans pour autant connaître toutes ces langues africaines, autres langues africaines naturellement.
Je commençais à m'interroger sur l'étymologie de certains mots Wolof et à me demander si nous ne pouvions pas avoir une écriture autonome. Je finis par créer à l'époque un alphabet avec des caractères spéciaux. J'ai renoncé depuis à ce système d'écriture autonome. Je me destinais à une carrière purement scientifique, signé Cheikh Anta Diop. Docteur Yorossi.
On l'appelait Carbone, on l'appelait...
Déjà ?
Oui. Il était bon, très bon en allemand, très bon en anglais, très bon en maths, en physique, en français aussi. Il était très bon. Et c'était un excellent élève.
C'est à Dakar, au lycée Van Vollenhoven, que Cheikh Anta Diop obtient en 1945 son brevet de capacité coloniale qui correspond au baccalauréat. Il embarque en avril 1946 pour Paris, avec pour ambition de poursuivre des études d'ingénieur des constructions aéronautiques. Annette Mbaye d'Erneville, une amie.
Un cher Anta Diop habitait à ce moment-là la rue des Écoles, à Paris, dans le 5e arrondissement.
C'est dans ce cadre du quartier latin que se croisent, se fréquentent les intellectuels, les étudiants africains en général. Ici, pas de nationalité. Tous se sentent d'abord africains. Ici foisonnent les idées, surtout dans cette période d'après-guerre où l'Empire a payé un lourd tribut pour libérer la métropole de l'occupation allemande. L'aspiration à l'émancipation et à l'indépendance est très forte dans cet environnement estudiantin. Le monde des intellectuels africains de la diaspora s'organise essentiellement à l'intérieur des académies. Annette Mbaye d'Erneville.
Ça se matérialisait justement par des rencontres, j'allais dire, intellectuelles et éducatives, entre guillemets. C'est-à-dire, ce groupe, peut-être pas particulièrement chez Ranta, ce groupe avait une sorte de mission pour que les jeunes Africains qui arrivaient en Europe particulièrement, en France particulièrement, à Paris, que ces jeunes Africains soient imprégnés d'un certain africanisme.
La conscience de l'Afrique, en gros.
La conscience de l'Afrique. Comme je vous ai dit, nous n'étions ni Sénégalais ni Ivoiriens, nous étions Africains. C'était pour essayer de nous conscientiser, pour préparer cette indépendance dont, il faut le reconnaître, Cheranta a été un des précurseurs, en tout cas le plus dynamique, le plus voyant, qui, à cette époque-là, parlait d'indépendance.
En attendant, le jeune étudiant nouvellement débarqué dans la ville Lumière s'inscrit en automne 1946 en classe de mathématiques supérieures au lycée Henri IV, à Paris. Il s'inscrit également à la Sorbonne, où il prépare dans le même temps une licence de philosophie qu'il achève en juin 1948. C'est justement au cours de cet enseignement, notamment avec les études et la philosophie de Gaston Bachelard, que se renforce sa démarche d'interrogation sur le passé afin de tracer les grandes perspectives d'une Afrique qui doit renaître. Ce questionnement est d'autant plus fort qu'il a été choqué par les affirmations de certains chercheurs et philosophes comme Hegel, qui a affirmé, je cite, que l'Afrique n'est pas une partie historique du monde. Il admet encore moins que Marx et Engels aient entériné cette affirmation. Ces assertions l'amènent très tôt à comprendre ce que l'étude des langues africaines peut apporter pour retrouver l'origine des civilisations africaines. Chez Kanta Diop, qui veut s'appuyer à la fois sur l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique, l'égyptologie, la philosophie et l'esthétique, se propose dans un premier temps de soutenir une thèse de doctorat ès lettres sur l'avenir culturel de la pensée africaine, dans laquelle il pose la question de ce qu'étaient les Égyptiens prédynastiques. Il ne parvient pas à trouver un jury acceptant d'examiner sa théorie dans le cadre de la thèse d'État. Mais il n'est pas homme à se laisser démonter pour si peu. Surtout que, parallèlement à ses études, il a également une activité militante en faveur de l'indépendance et de l'unité africaine. Il anime le mouvement des étudiants du Rassemblement démocratique africain, RDA. Il en est le secrétaire général de 1951 à 53. Alors que tous les partis politiques français s'opposent encore à l'idée d'indépendance, y compris les leaders africains devenus parlementaires français tels que Senghor, Sékou Touré ou Faure-Boigny, il lance déjà les mots d'ordre dans l'organe des étudiants du RDA, la Voix de l'Afrique noire. Docteur Yorossi, un de ses compagnons de cette époque.
Cher, admirait beaucoup Nkrumah et il admirait beaucoup les jeunes Camerounais qui étaient avec nous. Il admirait beaucoup Oumiobé. Senghor un peu moins quand même.
Pourquoi?
Oui, parce que les origines toujours. Senghor, sa mère est une paysanne. Son père est un paysan riche qui a de l'argent, mais qui chez nous ne représente pas grand chose. Vous savez,
c'est pas la notabilité.
La féodalité, il fait pas partie de la féodalité. Il ne fait pas partie des familles maraboutiques. Il a été élevé par les jésuites. Les jésuites l'ont formé. Il a fait le lycée, il a fait du latin, il a fait du grec. La civilisation gréco-romaine, judéo-chrétienne, il la possède au bout des doigts. Et en quelque sorte, Senghor, c'est un occidental. C'est un occidental.
C'est dans cette ambiance d'après-guerre où les étudiants africains de France discutent de l'avenir que Cheikh Kanta Diop, littéralement obsédé par le désir de l'origine des civilisations africaines, a décidé d'écrire, de vulgariser le résultat de ses recherches. C'est la publication de son premier ouvrage « Nations nègres et cultures » qui va singulièrement bousculer l'environnement intellectuel de l'époque, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Bien sûr, dans cette seconde partie, nous découvrirons ce personnage qui a influencé plusieurs générations d'intellectuels africains. Mais en attendant, juste après la réclame, le journal.
Les archives d'Afrique. Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Une grave autorité à l'époque s'était prononcée en disant que l'Afrique était à la traîne. Cela voulait dire que tout ce qu'on pouvait trouver en Afrique comme fait de civilisation ne pouvait dater que d'une époque relativement récente et qu'il était même devenu une sorte de sacrilège de comparer les faits de civilisation africaine des faits de civilisation des autres continents. Il fallait considérer l'ensemble du continent africain à part.
C'est cette perception de l'Afrique et de son histoire qui va l'amener dès la fin de la décennie 1940 à se lancer dans la recherche des origines et des civilisations africaines. Sa licence est lettre en poche, malgré le fait qu'il n'ait pas trouvé un jury pour examiner ses travaux dans le cadre d'une thèse d'État consacrée à cette question. Il va se lancer dans des recherches en sciences humaines, tout en poursuivant des études en sciences exactes. Ainsi, il obtient en 1950, à la Faculté des sciences de Paris, deux certificats de chimie. Chimie générale et chimie appliquée. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Cheikh Anta Diop. En ce début de la décennie 50, si le jeune intellectuel consacre beaucoup de temps à son engagement politique en faveur de l'indépendance de l'Afrique, il accorde dans le même temps une place prépondérante à la recherche. En ayant abordé l'étude de l'Égypte ancienne, il trouve rapidement une parenté entre la langue des pharaons et le Wolof, sa langue maternelle. Sa démarche d'abord linguistique va l'amener à comparer les concepts, croyances et coutumes qui sous-tendent les civilisations africaines précoloniales à ceux de la civilisation égyptienne pharaonique. En 1954, Cheikh Anta Diop publie son premier ouvrage, Nation nègre et culture.
Tandis que l'Européen peut remonter le cours de son histoire jusqu'à l'Antiquité gréco-latine et les steppes eurasiatiques, l'Africain, qui, à travers les ouvrages occidentaux, essaie de remonter dans son passé historique, s'arrête à la formation de Ghana, 3e siècle avant ou après Jésus-Christ. Au-delà, ses ouvrages lui enseignent que c'est la nuit noire. Que faisaient ses ancêtres sur le continent depuis la préhistoire ? Tandis que le ressortissant de l'Afrique occidentale peut ainsi contempler 2000 ans d'histoire, ceux des autres régions sont moins favorisés. Dans les bassins du Congo, du Zambèze, dans la région des Grands Lacs, les manuels occidentaux ne permettent guère de remonter sans solution de continuité au-delà de quelques siècles. Ces trous dans l'histoire africaine restent inexplicables aussi longtemps que l'on aborde mal le problème. Le problème général qui se pose donc pour l'histoire africaine est d'arriver, par des recherches fructueuses, à rattacher, non d'une façon hypothétique, mais effective, tous ces tronçons de passé à une antiquité commune qui rétablit la continuité. Il faut donc montrer qu'en prenant au sérieux les dépositions unanimes de toute l'antiquité savante et philosophique, qui témoignent que les Égyptiens étaient des nègres, comme tous les autres naturels de l'Afrique, on rétablit la clarté sur un point d'histoire qui n'est devenu réellement obscur que depuis un siècle, avec l'apogée de l'impérialisme. L'histoire africaine, ainsi raccordée à celle de l'Égypte et de l'Éthiopie, tout rentre dans l'ordre et l'on voit que le Ghana a surgi à l'intérieur du continent au moment du déclin de l'Égypte. Tout comme en Occident, les empires sont nés avec le déclin de Rome.
C'est un coup de tonnerre dans le monde des intellectuels en général, et celui très tranquille des égyptologues en particulier. Cheikh Anta Diop vient de se mettre en rupture avec l'histoire coloniale jusque-là racontée.
Et quand je suis tombé sur l'Égypte, par la linguistique surtout, eh bien, ça m'a ébloui, mais ça m'a gêné. Parce que je me suis dit, on va me faire des procès d'intention, on va dire que nous allons inventer une histoire pour doper exactement ce qu'on a dit, que c'était pour doper les peuples en lutte pour l'indépendance, que nous avons fait ça, qu'on nous comprend, et on était en train d'analyser ma conscience pour savoir les motivations psychologiques qui pouvaient me pousser à faire ceci et cela. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans la vie ? Toutes sortes d'arguments, sauf la bonne, qui consiste à discuter avec moi sur le terrain scientifique.
Dans Nations nègres et cultures, il expose ce qu'il a trouvé pendant ses recherches, comment il a reconstitué l'histoire africaine sur les bases de linguistique et sociologique. Ses conclusions sont simples. 1. La civilisation de l'Égypte ancienne, universellement considérée comme la mère de toutes les civilisations occidentales, était négro-africaine.
Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que ces Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Et nous sommes pratiquement au bout du métissage égyptien. Ça faisait 3000 ans d'histoire pendant lesquels l'Égyptien se métissait, mais malgré ce métissage intense, le peuple égyptien était plus ou moins comparable au peuple antillais. Les constantes raciales n'étaient pas bouleversées. On n'avait pas l'impression d'avoir un blanc devant soi parce que tous les témoignages de l'Antiquité sont là unanimes.
Toujours selon Cheikhanta Diop, l'histoire de l'Afrique noire ne connaît pas de solution de continuité depuis l'origine de l'espèce humaine qui, on le sait maintenant avec certitude, est apparue sur le sol africain.
Les premiers spécimens d'hommes apparu sur la terre, sous la latitude du Kenya, étaient nécessairement des négroïdes pour la simple raison que sous cette latitude, le flux de radiation ultraviolette est tel qu'aucun organisme supérieur ne peut vivre et survivre sans être protégé par un écran de mélanine. Parce que, vous voyez, la nature ne fait rien au hasard et la nature a protégé l'espèce humaine sous la latitude équatoriale où elle est née, par un écran de mélanine, sinon cette humanité n'aurait pas survécu. Si la nature s'était prononcée en sens inverse, et si l'humanité avait d'abord pris naissance ici en Europe, sous les latitudes tempérées, elle eût été d'abord leucoderme. Elle n'aurait pas été pigmentée, la pigmentation n'aurait pas été nécessaire pour la protéger d'un flux de radiation quasi inexistant. Donc l'humanité eût été leucoderme. Et en se déplaçant dans les conditions de la préhistoire pour aller peupler les autres continents, cette humanité, en arrivant sous l'équateur, se serait nigrifiée ou aurait disparu.
Toujours dans Nations nègres et culture, Cheikhanta Diop évoque l'unité ethnique, sociologique et linguistique de l'Afrique démontrée par son histoire, et c'est elle qui doit être à la base de son unité économique et politique qui reste à construire. Autant d'idées qui bousculent la pensée de l'époque. À sa parution, peu de personnes vont lire avec sérénité, lucidité et intelligence « Nations nègres et culture ». Pour les uns, c'est une révélation fracassante, et alors, ils adhèrent. Ils sont nombreux les étudiants africains qui vont se jeter sur cet ouvrage. Il devient un document de référence qui corrige une falsification de l'histoire. Dans son pays, le Sénégal, au lycée Federbe, quelques fans vont même créer un gouvernement de l'Afrique indépendante. Le jeune Abdou Diouf, qui abrite les réunions de ce petit groupe, en est le chef de gouvernement. Mais pour les autres, Nations nègres et culture est un texte idéologique et politiquement dangereux. Il est dénoncé tant dans le milieu des égyptologues, qui ironisent et prennent avec un peu de condescendance cette publication, que dans le mouvement de la négritude, né de l'entre-deux-guerres, qui affiche plutôt une orientation marquée pour la littérature. Amadi Ali Dieng faisait partie de ces intellectuels du quartier latin.
Nation nègre peut poser problème. Nation nègre, c'est avec S. Nègre avec S, mais culture sans S, évidemment, c'est un problème. Cher est un jacobin culturel. Il est jacobin culturel en sens qu'il pense qu'il n'y a qu'une unité culturelle, l'Afrique noire.
Il n'y a pas de culture en Afrique, il n'y a qu'une seule culture.
Donc ça pose problème. Ça pose le problème de l'essentialisme, qui est un problème philosophique qu'on devrait aborder, mais c'est très peu abordé par les Africains. Le rare qu'il aborde rapidement, c'est Souleymane Bachir. En traitant aussi, évidemment, pratiquement aussi, de pharaonisme, d'essentialisme. Les blancs sont comme ça, les noirs sont comme ça, tous les blancs ne sont pas les mêmes, tous les noirs ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est une attitude conservatrice, figée, proprement parlée, alors qu'il y a la diversité. Il est vrai qu'il y a les relents du courant anticolonialiste. On vous dit que vous êtes divers culturellement, vous n'avez pas de culture, vous avez des cultures, etc., etc. Il y a une réaction à proprement parler. C'est ce que je retiens chez Cheikhanta, c'est un nationaliste. Et ce nationalisme-là, bien entendu, cherche à se donner, évidemment, des arguments sortes scientifiques. Dire, généraliser sur l'Afrique, c'est très aléatoire. Surtout quand les problèmes sont portés non pas au niveau de l'Afrique, mais portés au niveau, par exemple, de l'Océanie. Connaître la civilisation française, la civilisation océane, et aussi, etc., et négliger les autres, par exemple, en Amérique latine, ça peut poser des problèmes.
Et l'Asie.
L'Asie, ça pose des problèmes très sérieux. Mais moi, je le comprends. il ne voulait pas que le combat soit abandonné par quelqu'un. Il était un héros solitaire, il faut dire la vérité. Parce qu'il avait l'âge, le privilège de l'âge, le privilège aussi d'avoir venu faire ses études en 46. Beaucoup d'ailleurs d'entre eux ont bénéficié des bourses de Lamine Gueye, qui était un homme généreux.
Malgré la vive critique des intellectuels, notamment des égyptologues, Cheikh Anta Diop ne désarme pas. Au contraire, on a l'impression que plus la critique est vive, plus il s'implique. Et son terrain est le domaine scientifique, la recherche. C'est ainsi qu'à la fin des années 1950, il entreprend une spécialisation en chimie nucléaire et physique nucléaire au laboratoire Curie de l'Institut du Radium, dont le savant engagé, Frédéric Joliot-Curie, a pris la direction à la mort de sa femme Irène, autre éminente scientifique. Cheikh Anta Diop, tout en poursuivant ses recherches dans cette prestigieuse institution, enseigne la chimie et la physique dans deux lycées parisiens, Voltaire et Claude Bernard. Il y travaille en tant que maître auxiliaire. Seulement, le chercheur sénégalais n'a pas renoncé, malgré la critique, à publier ses recherches dans le milieu scientifique. C'est pourquoi il se réinscrit en 1956 en thèse d'état de lettres. Janvier 1960. Cheikh Anta Diop soutient sa thèse de doctorat S-Lettres à la Sorbonne. Le préhistorien André Leroy-Bourand est le directeur de thèse. Le jury est présenté par André Aymard, spécialiste de l'Antiquité grecque et doyen de la faculté des lettres. Et pendant plus de 6h10, Cheikh Anta Diop expose ses travaux devant quelques étudiants africains en majorité qui ont effectué le déplacement. Ils sont nombreux. Cheikh Anta Diop.
J'ai voulu dégager d'une façon générale l'unité culturelle africaine et d'un autre côté animer l'histoire de tout le continent sur une période de 2000 ans au moins sans solution de continuité.
Maintenant que vous êtes titulaire du titre de docteur S-Lettres, après tant d'efforts et de persévérance, que comptez-vous faire?
Je vais rentrer définitivement en Afrique noire dès la semaine prochaine et j'essaierai de contribuer à la formation des cadres, de contribuer aussi à l'impulsion de la recherche scientifique, aussi bien dans le domaine des sciences humaines que dans le domaine des sciences exactes.
Amadi Ali Dieng était dans la salle, témoin de cette soutenance de thèse.
Je me souviens très bien combien nous étions choqués lorsque, à la soutenance de thèse, le doyen Aymard, qui était le président du jury, esprit remarquable, qui connaît latin et grec, mais féroce et cruel quelquefois dans ses propos. Monsieur Cheikh Anta, vous ne présentez pas une thèse, vous présentez un brillant essai. Il y a des choses qui vous manquent sur l'antiquité gréco-latine. Fustelle de Coulanges ne peut pas servir de référence. Il est dépassé. Et vous le citez, et vous citez mes assistants. Mais je vous avais recommandé la lecture d'autres ouvrages. Évidemment, vous avez persisté dans votre propre choix, c'est votre droit le plus absolu. Évidemment, la salle a rumié un peu. Dans la réaction, parce que tous les Africains étaient pratiquement là. C'était à la salle Liard. C'est comme si c'était hier.
Voici justement ce que disait le doyen André Aymard, le président de jury de cette thèse, ce 6 janvier 1960.
Au cours de toute cette soutenance, cette longue après-midi de soutenance, sur à la fois l'homme et les deux thèses de M. Diop, nous avons tous été unanimes pour louer en M. Diop une curiosité d'esprit, une intelligence sans cesse en éveil, le goût des grands problèmes, des plus grandes questions, parfois des plus audacieuses. Nous connaissions bien tous M. Diop par ses travaux antérieurs comme par les rapports qu'il avait pu avoir avec chacun de nous, la qualité de l'homme dont il a fait preuve au cours de la soutenance, par la vivacité de ses réparties, par sa présence d'esprit, rien de tout cela ne nous a surpris. Nous avons, selon les coutumes rituelles, selon les habitudes de la maison et de l'examen, nous avons présenté des critiques, certaines ont pris une forme assez vive. Il reste que nous avons apprécié le travail dont il s'était occupé pendant plusieurs années. Et la décision a traduit l'impression générale que le jury recueille de la lecture de ses travaux et de cet après-midi de discussion. C'est la décision finale a été la proclamation de M. Cheikh Anta Diop comme docteur ès lettres avec la mention honorable.
Mention honorable pour le chercheur rebelle. Pour l'intellectuel africain qui bouscule les éminents savants qui ont jusque-là écrit l'histoire du monde et de l'Afrique à leur manière. Cette fois-ci, il est conforté, mais le combat ne fait que commencer. Il est sur le terrain scientifique et ceux auxquels il doit faire face sont largement, largement plus armés, mieux équipés. Mais pour Cheikh Anta Diop,
que la supercherie est finie, on n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveau-nés.
Il ne suffit pas de le dire. Il faut apporter des preuves, des faits scientifiques pour être pris au sérieux, pour rendre cette thèse crédible, acceptable de tous. Le combat s'annonce long, très long. Suite de notre série spéciale chez Anta Diop la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Bayi sokhna mo ni rek la ni